Bonjour Body Freaks, les corps déjantés. Nous nous retrouvons pour la deuxième émission. Nous sommes sur la radio libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Vincent et ce soir nous avons deux invités. Il y a Laz qui vient nous parler de la prévention HIV chez les trans. On fera aussi un parallèle avec les intersexes, les trans garçons je précise, parce que c'est le 30 de ce mois-ci, c'est la marche de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis on a Baptiste aussi, artiste de cabaret, qui vient nous parler un petit peu de son art. Voilà. Bon, on va commencer parce que je ne sais pas si à la régie on m'entend, c'est le silence le plus complet. Donc on est j'espère, en ligne, j'espère que tout va bien. J'ai des regards assez apeurés des gens de la technique, donc de Thibaut et Morgane. Voilà. Alors, Laz, nous avions donc prévu de parler de la prévention HIV chez les trans-FTM. On a finalement assez peu de données, donc on a eu un excellent travail fait notamment par Hélène Azera et par l'équipe de d'ACT UP sur trans, VIH et hormonothérapie. Et c'est vrai qu'à cette occasion-là, on s'est rendu compte de l'absence complète d'études, notamment d'études épidémiologiques en Europe. Est-ce qu'on a quelques données? Est-ce que c'est...
Non, ce que j'ai pu trouver, en fait, c'est quelques études américaines, et toujours à chaque fois sur des petites populations, généralement pas plus de 10, 20, 30 personnes, enfin 30 FTM à chaque fois. Et...
Et les études sont des études associatives ou des études faites par des équipes de laboratoire ou par de la recherche médicale ou... On connaît l'origine de ces études?
Je ne me suis pas encore préoccupé de ça. Je cherchais pour le moment juste quelques chiffres.
En termes de séroprévalence à peu près, parce qu'on sait par exemple que pour les intersexes en Amérique du Nord, puisqu'on n'a absolument aucun chiffre, c'est une grande bataille de chiffres pour l'Europe, puisqu'on n'est pas d'accord sur la définition, mais on sait que ce que nous reconnaissons comme intersexe, donc toute personne qui ne naît pas mâle et qui ne naît pas femelle, et particulièrement pour ceux qui sont hormonés en hormonothérapie de substitution pour fabriquer des faux mâles, que le taux de prévalence pour l'Amérique du Nord est à peu près de 30%. Et que c'est notamment lié à la libido qui est déclenchée par cette hormonothérapie de substitution qui n'est pas choisie. Est-ce qu'on sait le taux de prévalence à peu près par rapport au peu d'études que tu as? Et est-ce qu'on sait aussi les raisons de cette séroprévalence?
Pour les quelques études, ça va de 0 à 4% de prévalence. Et par contre, ce qui n'a pas du tout été étudié, c'est les séroconversions qui ont pu être faites par exemple, l'échange de seringues ou la réutilisation de seringues. Ça porte juste en fait sur les comportements sexuels au niveau des taux de contamination VIH ou autres IST. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de garçons trans ne savent pas de toute manière quel est leur statut sérologique. En fait, quand on leur demande s'ils sont séropositifs ou négatifs, la plupart savent dire s'ils sont positifs ou négatifs. Mais en fait, si on leur demande s'ils ont été testés, plus de la moitié, généralement, n'ont jamais été testés.
Ceux qui sont séropositifs le savent parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont été confrontés à la problématique. La majorité des autres ne se font pas dépister, c'est voilà. Un petit peu ça.
En estimant que, ils ne se sentent pas du tout concernés, en fait, par le VIH, ou bien ils n'ont pas pensé, ou ils considèrent que leurs pratiques ne sont pas à risque. Voilà. Et en fait, pour... Non.
Alors, les chiffres dont on m'avait parlé étaient plus importants que ceux que tu annonces. Alors, effectivement, sur des panels aussi short, c'est un peu compliqué d'avoir une visibilité de la problématique.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est que principalement aussi, ces études portent sur des garçons trans, en fait, qui ont principalement des rapports avec des femmes. Ça a été relevé le manque en fait de données sur les FTM, il y a des rapports sexuels avec des hommes, mais j'ai pas trouvé d'études spécifiques sur le sujet.
D'accord. Et en plus, comme tu le soulignais, on parle que suite à des rapports sexuels, on ne parle pas notamment de la, comment, des différentes addictions avec seringue, où on parle de rapports sexuels, mais on ne parle pas de prostitution. Or, il me semble quand même qu'un certain nombre de FTM, en tout cas, c'est un petit peu ce qu'on voit en Europe, passe à un moment donné ou à un autre pour plein de raisons. Et je pense que c'est encore plus important aux États-Unis pour des raisons économiques, puisqu'il n'y a pas ni CMU, ni Mutuelle, ni RMI, passe par la prostitution. Donc c'est aussi une donnée qu'on n'a pas, qui reste très nébuleuse, alors qu'elle pourrait avoir une importance statistique.
Oui, surtout que se pose le problème de savoir comment comptabiliser les personnes, parce que les quelques FTM que je connais qui ont pratiqué ou qui pratiquent toujours la prostitution, il y en a qui le font en tant que fille, il y en a qui le font en tant que garçon. Donc après, on peut se dire peut-être qu'ils ont été interrogés lors d'études, mais qu'ils ont été classés comme femmes ou pas du tout comme trans. Donc de toute manière, c'est invisibilisé par la manière dont les études sont faites.
D'accord. Et alors, on avait regardé ensemble des quelques messages de prévention qui existent, qui ont été faits par des militants, hein, qui n'ont pas du tout, enfin, qui sont des choses qui sont faites par des personnes, hein, et non pas par des associations ou des lieux de prévention. Moi, j'ai été étonné parce que ça ressemble à des petites bandes dessinées, enfin même pas à des albums photos des années
C'est un genre de
50.
roman
Oui,
photo
voilà, un roman photo.
pour là.
Est-ce que tu as l'impression, puisque tu parcours quand même un certain nombre de forums nord-américains, que ce type de message de prévention a une efficacité, ou est-ce que finalement, enfin, moi, il me semble qu'en Europe, ça n'aurait pas d'efficacité, mais c'est peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas.
J'en sais rien parce que celui-là, c'est un donc un genre de roman photo donc qui m'a été donné. Moi, je suis plus habitué à ce qui peut être communiqué vraiment par le net, donc qui était qu'au format digital à la base, et ce qui était donc un livret où il y avait beaucoup plus de textes et quelques dessins, et qui sur les quelques forums où il a été diffusé a vraiment été très bien accueilli parce que c'était le À ma connaissance, le premier en fait matériel de prévention destiné au FTM, de prévention des risques au niveau maladies sexuellement transmissibles qui existait. Et régulièrement, les gens redemandaient le lien, où était le lien vers ce livret, savoir s'il avait été mis à jour. Il y a une demande, en tout cas, il y a peu de choses qui sont faites. Je sais qu'il y a des ateliers qui se font lors de certaines conférences FTM, lors des grosses confs annuelles de plusieurs centaines de personnes. Il y a des ateliers et il y a une demande en fait de comment gérer en effet la prévention quand on est FTM, comment gérer la drague en milieu gay quand on est FTM, comment gérer annoncer qu'on est trans dans le cadre de la drague. Mais il y a peu de matériaux. Qui sont faits sur papier ou qui sont utilisables dans le cadre d'une prévention.
D'accord. Et en Europe, enfin, moi, à ma connaissance, il n'y a aucun message de prévention spécifique au FTM sur l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles, c'est dur à dire ça. Et sur les IST en général.
Quelque chose qui est répandu, en tout cas non, je pense qu'il y a sans doute au niveau local des initiatives, fatalement ça a dû se faire, mais. Des choses qui ont été diffusées à un niveau plus national ou international, non, je n'en ai. En tout cas, moi, je n'en ai pas connaissance.
D'accord. Sur le moi, je m'interroge par rapport à la population intersexe, hein, qui est en Amérique du Nord, sur ceux qui ont été assignés en garçons, qui est très touchée par le virus du HIV, qui est sans doute l'une des populations les plus touchées avec les prostituées trans. Moi, je m'interroge, on n'a absolument aucune étude sur les interactions médicamenteuses entre notamment les trithérapies et l'hormonothérapie de substitution à la testostérone. On a vu là, grâce à ACT UP, qu'il n'y en avait aucune en hormonothérapie de substitution féminisante. Mais il y a vraiment, à mon sens, des choses importantes, parce que l'hormonothérapie de substitution à la testostérone, c'est loin à dire, mais enfin, il faut que je le dise jusqu'au bout, est déjà difficile à vivre pour un certain nombre d'entre nous, et on sait qu'elle a souvent des répercussions sur le foie, que beaucoup de personnes testostéronées sont dans l'obligation de prendre aussi d'autres médicaments toxiques, notamment des antidépresseurs et des thymorégulateurs, et qu'à ça, si on rajoute la trithérapie par exemple, notamment le foie, mais enfin le reste de l'organisme souffre énormément. Est-ce que sur les forums, parce que finalement c'est à peu près notre seul baromètre, est-ce que sur les forums nord-américains, ou même français, mais j'en ai pas vu, j'y vais rarement, mais j'en ai pas vu, nord-américains, y a quelques données là-dessus, est-ce qu'il y a des personnes qui interrogent sur ces thèmes-là?
Sur les interactions...
Les interactions médicamenteuses et la prise de testostérone.
Bah, régulièrement, parce qu'en effet, je ne l'ai pas encore vu. En fait, je ne pense pas l'avoir vu en France, mais en effet, régulièrement aux États-Unis, il y a plusieurs personnes, que ce soit, en effet, tout ce qui est médicaments, particulièrement les antidépresseurs, beaucoup de personnes qui se demandent si c'est contre-indicatif au début d'une hormonothérapie, ou les antipsychotiques, ou... les médicaments pour la thyroïde ou pour le diabète ou même l'alcool ou d'autres drogues, c'est en effet des questions qui reviennent régulièrement. Ouais.
Mais par rapport particulièrement la testostérone et les trithérapies
Non. j'ai jamais vu la question posée ou répondue, parce que c'est vrai que j'ai rarement rencontré en fait des FTM qui se disaient séropositifs sur les forums, en tout cas.
D'accord.
On va dire d'une manière publique, c'est pas quelque chose de manière qui parle.
C'est vrai que c'est un sujet qui est assez peu abordé finalement chez les FTM, hein, de toute façon. Autant, contrairement à ce qu'on croit, on parle énormément de nos pratiques sexuelles et de sexualité, comment on vit notre corps, etc. Et de comment notre corps est en mouvement grâce à la testostérone ou à cause... pour les intersexes, pour certains intersexes. Mais on parle très rarement, finalement, la problématique HIV. On en parle beaucoup plus chez les filles trans que chez les garçons. Bon, malheureusement, parce qu'elles ont payé un tribut très, 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 très lourd, et puis que la trithérapie et l'hormonothérapie féminisante amènent des problèmes à la fois physiologiques très lourds, et puis de regard d'autrui, hein, puisque c'est très très marquant, mais que sur les FTM, finalement, on a assez peu de... On parle rarement entre nous, d'ailleurs, du HIV ou même du risque.
Oui, et puis c'est vrai que les seules fois où on en a parlé sur le forum, ça a été peu... comparé à d'autres débats, en tout cas, ça a été peu suivi... Je sais que là, l'une des seules fois où j'en ai parlé, c'est parce que j'ai été directement confronté, ou suite à une agression, j'ai dû donc prendre un traitement d'urgence, des antiviraux, et où là, je me suis mis un peu à parler des traitements d'urgence qui existaient, ou des questions que je me suis posées en me disant, est-ce qu'il faut que j'en parle à mon endocrino, est-ce que je dois faire rapidement, j'avais un bilan complet qui était programmé, est-ce que ça va jouer sur ce qu'on teste, mais sinon, ne serait-ce que le sida en général ou la protection contre d'autres MST, c'est rarement, ça déchaîne pas les foules quoi, d'en parler.
Oui, donc, on n'a aucune visibilité sur la communauté trans, aucune étude statistique fiable sur la communauté trans FTM et sur les intersexes masculinisés. De nous-mêmes, entre nous, en fait, on parle assez peu de cette problématique-là. On a du mal à la faire émerger. Et c'est vrai qu'on est un certain nombre à avoir été sous trithérapie préventive et à l'avoir mal vécu, parce que le corps le vit très très mal avec la testostérone. Mais en gros, on l'a gardé pour nous. Alors... on va rappeler quand même la marche. La marche, c'est le 30 novembre, c'est à 18h30, départ de la Bastille. C'est important que chacun prenne le temps d'aller à cette marche-là. Le 1er décembre au soir, toujours au studio campus, il y a une représentation d'Edwig dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis après la musique, on va vous annoncer encore quelques dates sur la même thématique.
Et je vous rappelle que vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, que si vous voulez nous appeler pendant les pauses musicales, vous pouvez, le numéro est le 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40, et que si vous voulez soutenir la radio, vous pouvez acheter la carte d'auditeur à la librairie Publico, 145 rue Almelot, dans le 11e métro Oberkampf.
Oui, Body Freaks, on reprend les corps déjantés. Donc, nous étions en train de parler avec Laz de la prévention du HIV chez les trans garçons et chez les intersexes réassignés en garçons. Donc, déjà, je voudrais annoncer un débat que nous organisons dans le cadre des ateliers que j'anime, des ateliers de Frères Poussière. Donc, le lundi 11 décembre, ça sera au théâtre de la mairie du 9e arrondissement. Il y a deux tables rondes, trans, prostitution, quelle prévention? Et le deuxième, donc sur le sujet dont on parle ce soir, FTM, intersexe, quelle prévention HIV? Et le soir, il y aura donné gratuitement le spectacle de Monsieur K, qui est le spectacle de cabaret. Donc on en reparlera peut-être un peu après avec Baptiste. Voilà, donc dans un second temps, avec Laz, nous voulions aborder la sexualité, le rapport au corps chez les FTM et chez les intersexes garçons, et la prise de danger, donc qui amène à une prise de risque, et puis aussi l'accessibilité des messages de prévention vis-à-vis de cette population.
En fait, en interrogeant les personnes qui ont eu des comportements sexuels à risque, donc non-utilisation de préservatifs lors de pénétration vaginale ou anale, par exemple, on se rendait compte qu'en fait, un motif qui revenait souvent, c'était de... Déjà, on était bien content que quelqu'un soit attiré sexuellement par nous. Ça nous faisait nous sentir aimés, encore plus si la personne validait notre identité. Et que on se sentait pas forcément capable à un moment de dire qu'on voudrait mettre un préservatif, ou même au dernier moment où on reculait le moment, et au dernier moment on se disait là c'est trop tard pour aborder la question. Et c'est vraiment quelque chose qui revenait souvent, quoi, dans les dépouillements de questionnaires.
Alors ça, moi je trouve ça vraiment intéressant, parce que c'est vraiment une convergence avec l'intersexualité, où systématiquement la prise du risque et la prostitution aussi, hein, qui n'est pas nécessairement, au moins en France, d'origine pécuniaire, c'est pour une fois que quelqu'un a envie de moi, que je peux éveiller le désir, je ne vais pas me positionner, moi, en censeur, et c'est déjà bien que quelqu'un ait envie de moi, donc nécessairement je me laisse faire. Alors voilà. D'où l'origine du viol de l'immense majorité des intersexes, hein, que ce soit garçon ou fille, d'inceste aussi, toutes les violences sexuelles, mais aussi de prise de risque et de pratiques qui sont fondamentalement considérées comme un risque dans les autres populations, mais qui chez nous sont complètement éludées.
Oui, parce qu'il y avait en plus, pour quand on interrogeait les personnes sur leur comportement à risque, les FTM, par exemple, qui pratiquent la pénétration vaginale, déjà à la base n'avaient peut-être pas envie nécessairement d'en parler, comme cela va à contre-courant donc d'une identité de bien masculine, de garçon. Et donc en plus, que si ça s'était doublé de pratique à risque, ça allait être totalement mis sous le tapis, quoi.
Oui, alors c'est vrai que l'utilisation du vagin, tant chez les intersexes garçons que chez les FTM, l'utilisation du vagin à des fins de plaisir sexuel a longtemps été tabou, puisque on se considérait comme mec, qu'il était hors de question d'utiliser cette partie de notre anatomie. Et de fait, on se rend compte avec la nouvelle génération qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être grâce à Internet, qui est à contre-courant complètement de la façon de vivre la sexualité de l'ensemble des Français, qui en parle assez facilement et qui est plus libre, parle énormément de l'utilisation du vagin et utilise énormément le vagin. Alors je ne sais pas si l'ancienne génération que je représente, on utilisait moins et la nouvelle utilise plus. C'est cette partie de l'anatomie, mais le fait est que c'est vrai que c'est une raison de prise de risque, puisque au départ il y a quand même souvent c'est quand même un espace tabou, puisque c'est l'endroit soit qui a été mutilé, soit qui n'aurait pas dû exister, ou l'endroit qu'on aurait voulu qui n'existe pas, quelle que soit dans la catégorie dans laquelle on se positionne. Et effectivement, c'est vrai que chez les homosexuels, on ne va pas parler de pénétration vaginale, hein, chez les homosexuels garçons. Chez les hétérosexuels, c'est un mec qui pénètre une nana. Chez les lesbiennes, on parle moins de prévention par pénétration, puisqu'on considère bêtement qu'il n'y a pas de pénis. Par contre, c'est vrai, nous, dans quelle classification on va pouvoir se confronter dans les messages de prévention?
Et aussi un autre, j'y repensais, un autre motif de non-utilisation de préservatif qui revenait, c'était la peur en fait de se faire outer en tant que trans si on demandait l'utilisation d'un préservatif. Par exemple, sur les lieux de drague, il y a en fait pas mal en fait de FTM qui pensaient que si j'insiste pour que, genre dans un parc public, pour que le mec mette un préservatif, si je veux le sucer, il va se dire, tiens, cette personne est bizarre, c'est pas un mec homo.
Comme si la pratique de la fellation sans préservatif allait de soi entre homos, donc parce que être perçu comme un homo, donc je mets pas de préservatif.
Il y a pour certaines personnes cette impression en fait que la prévention, l'utilisation donc systématique de préservatifs ou de gants latex ou de tout un matériel de prévention est réservé à, mettons, une certaine communauté lesbienne et n'est pas typé, en fait, comportement PD.
D'accord.
D'autant plus sur les lieux de drague.
D'accord. Après, bon, il y a l'autre problématique qu'on retrouve peut-être plus chez les intersexes, mais qu'on peut retrouver aussi chez les personnes qui ont une métadioplastie ou simplement un diclit, c'est quelle capote utiliser, hein. On le voit chez les intersexes qui ont un petit pénis, mais qui ont quand même des érections et un désir de pénétration, en général pénétration vaginale, puisqu'on n'a pas la chose assez longue pour faire une pénétration anale. Je dis bien en général. Voilà, on n'a pas non plus de préservatif adapté. Et ça aussi, c'est une problématique. Hein. Bien que le fémidon puisse parfaitement remplacer la chose.
Oui, on voyait sur Internet. En effet, de temps en temps, on voyait une demande en fait, de la part de FTM qui disait bon, une digue dentaire, ou bien je considère ça trop féminisant, ou bien simplement ça ne va pas. Un préservatif, ça va être trop large, trop grand, et donc une demande en fait de matériel de prévention adapté. Donc il y avait vraiment donc les méthodes à l'emporte-pièce, genre modifier un gant en latex en découpant, utiliser des doigtiers, mais
ce qui est pas forcément source de plaisir, voilà. Ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne encore, parce que moi, ça m'étonne toujours, où on voit beaucoup de FTM qui sont très très bien dans leur corps et qui vivent très bien ce que nous, l'ancienne génération, nous appelions la transition, hein, puisque maintenant, ce n'est pas forcément perçu comme une transition, et l'identité de genre est beaucoup moins marquée, du moins chez les jeunes qui s'expriment. Par contre, on voit que dans la pratique sexuelle ou même dans la pratique sentimentale amoureuse, il y a vraiment une difficulté à accepter son corps tel qu'il est. Difficulté qu'on retrouve bien évidemment chez les intersexes, mais qui pour moi est plus évidente qu'il est peut-être pas forcément, puisque je mets tout ça sur le compte des mutilations. Mais et là, je suis étonné que autant la pensée FTM ait énormément évolué sur voilà, je suis comme ça et je le vis bien. Et très souvent, on voit des jeunes qui au collège le vivent très bien, soit en ayant dit à la direction qui est son mec et personne ne le sait, soit en le disant carrément à l'ensemble des gens, voilà, je suis FTM et puis c'est mon problème. Donc qui semblent, enfin qui d'ailleurs au quotidien le vivent très bien, qui sont épanouis, mais qui à partir du moment où il il bascule dans quelque chose de plus personnel, de plus intime, ont du mal à vivre une espèce de distorsion entre leur corps social qui est bien vécu et leur corps intime qui est difficile à vivre et qui effectivement peut amener des prises de risque. Je ne suis pas clair.
Je ne sais pas, parce que ça me semble qu'elles sont inhérentes pour beaucoup de trans, cette discordance, justement, ce malaise par rapport au corps, où je n'ai pas compris du tout ce que tu me demandais.
Bah, si tu veux, moi, il me semble, avec le recul de mon vieil âge, qu'il y a une bien meilleure façon de se vivre en tant que trans mec aujourd'hui, d'intégration sociétale. Par contre, qu'en termes d'intimité, que ce soit amoureuse ou sexuelle, il y a toujours une difficulté à vivre ce corps-là. C'est comment j'annonce, comment je le vis, alors que très globalement, dans la vie quotidienne, ça ne pose pas de problème. À ce moment-là, ça pose encore problème. Et je me dis, est-ce que c'est à l'origine de prise de risque? Alors, on en a un petit peu parlé, il semblerait que oui. Mais pourquoi on a su évoluer en disant, ben ouais, on est trans, mec, et on l'affirme, on en est fier, et qu'au moment de nouer une relation intime, ça nous pose encore des problèmes?
je ne sais pas, parce que pour moi, ça me semble aller de source avec simplement beaucoup de... parce que une fois que les habits s'enlèvent, que l'on rentre dans l'intime, on est renvoyé à son corps, et pour beaucoup de personnes trans, le corps pose un problème, et donc ça me semble logique que même si qu'on permet à des gens de vivre socialement en tant que trans de mieux en mieux, le corps continue de poser problème. Je pense pas que ça puisse être éliminé par des adaptations sociales, le malaise ou l'inadaptation qu'on peut trouver à son corps.
D'accord, non, mais je suis naïf, hein. Moi, je pensais que tout avait gentiment évolué et que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes chez les FTM. Parce que, effectivement, chez les intersexes, on est toujours vraiment dans le traumatisme du corps. Donc, forcément, sexuellement ou sentimentalement, on a de grandes difficultés à appréhender. Alors j'avais l'impression que justement non, ça serait plus facile pour les FTM dans la mesure où, comme socialement ça allait de soi, intimement ça irait de soi. Mais ok.
pour beaucoup de FTM, en effet, ça, j'ai observé en effet qu'il y en a beaucoup qui ont peu ou pas de problèmes avec leur corps, où on retrouve moins ces discours de dégoût, de honte. Et... Oui, ok, tu soupires de soulagement.
Ah oui, là, j'ai eu
mais
peur.
Je voudrais pas gommer que pour beaucoup d'entre nous, moi inclus, même si socialement et amoureusement ça va bien, que le corps reste un gros problème quand même.
D'accord. D'où la prise de risque, comme on le disait tout à l'heure en général. Ou le repli sur soi.
Oui.
Je lui fais peur. Ok, on va passer la musique et puis on va venir à des choses plus légères.
Rebonsoir, vous écoutez toujours Radio Libertaire et c'est Body Freaks qui reprend.
Oui, alors nous allons prendre un thème plus léger, mais un thème qui me tient à cœur aussi. Donc j'avais invité Baptiste, qui a gentiment répondu présent. Le thème était cabaret travesti, expression de genre ou performance artistique. Donc voilà, c'est une question, elle est lâchée. Maintenant, tu as 20 minutes.
Bonsoir Vincent, bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Bah, écoute, oui, j'ai un peu pensé à la question quand même. Alors d'abord, pour commencer, pour me situer, me présenter, donc je m'appelle Baptiste. Je fais la chanson électropop depuis quelques temps et c'est vrai que j'en suis venu que depuis très peu de temps à ce qu'on pourrait appeler du cabaret travesti. C'est pas forcément un thème que je connais très bien, donc j'aurais pas la prétention ce soir de donner des réponses qui auront une valeur universelle à ce sujet. En tout cas, je pourrais parler de mon cas et du cas des quelques amis qui m'entourent et qui se produisent régulièrement avec moi dans un lieu de la capitale.
Voilà, alors il faut dire quand même, parce que Baptiste est modeste, qu'il est à l'origine des soirées vice-vertu dans un bar du 3e arrondissement qui porte presque le même nom que les soirées, qu'on aime beaucoup, et que ces soirées-là drainent quand même de plus en plus de monde, et que notamment la dernière, c'était vraiment très impressionnant, parce que il y avait une ambiance, une excellente ambiance.
Et en plus, nous avons eu la chance de recevoir une programmation exceptionnelle avec la performance en avant-première de Bella H. Bella H, c'est Madame H et Bella 9CH qui sont venus donc présenter Volver Pomelo. C'est un spectacle qu'elles vont jouer dans le sud de la France et espérons-le bientôt à Paris dans une salle.
Voilà.
Donc pour revenir à la question du cabaret travesti, s'il s'agit d'une expression de genre ou bien d'une performance artistique, je dirais pour commencer que si on regarde bien, bon, le cabaret c'est avant tout du spectacle, c'est de la création, de l'imaginaire, du rêve, c'est un endroit où on fait semblant. Donc ça va de pair avec le maquillage, avec le déguisement, donc, déguisement, le travestissement au sens large si on peut dire. C'est un endroit et des moments dans lesquels aussi les questions de genre sont un peu floutées, parce qu'on voit des femmes en haute forme, on voit des hommes avec des plumes. Bon, c'est très soft, n'est-ce pas, comme manière de transgresser les genres. Mais c'est vrai que par définition, le cabaret est quand même quelque chose d'assez décalé, qui n'a pas la prétention de refléter la vie quotidienne, au même titre qu'une pièce de théâtre peut aborder des sujets de société. Le cabaret, quant à lui, essaye d'apporter du divertissement, du rêve au spectateur. Bon, le cabaret travesti, bien sûr, c'est du coup un aspect assez spécifique à l'intérieur de tout ça. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, si je peux apporter une première réponse, c'est vrai que je ne considère pas de ma part qu'il s'agisse d'une expression de genre, pour des raisons assez simples, en fait, dans la mesure où, selon moi, l'expression de genre, on peut entendre par là quelque chose qui a trait à l'intime, à la personnalité et finalement à sa propre nature, en tout cas telle qu'on veut bien se définir. Et si on parle au contraire de performance artistique, ce par quoi je me sens davantage concerné, la performance artistique, c'est de l'ordre de l'exercice, de la création, de l'invention. Donc, c'est deux choses qui certes, ne sont pas incompatibles, mais qui, en tout cas, ne sont pas, pour moi, en tout cas, liées.
Oui, alors, voilà, on a déjà parlé de ce sujet-là, parce que moi je vous regarde avec concupiscence, hein, parce que vous êtes tous jeunes et très beaux, et tous de jolis homosexuels. Et moi, je suis quand même toujours étonné, je vous repose de façon rhétorique toujours cette question à laquelle vous répondez toujours, comme tu viens de me le dire, que ce n'est qu'une performance artistique. Mais alors, comment tombe-t-on dans le cabaret travesti, et pourquoi systématiquement choisir des rôles de travesti quand on est dans le cabaret travesti? Comme s'il y avait une impossibilité à dire oui, j'ai plaisir à m'habiller en femme, et qu'il n'a absolument aucune autre incidence que d'avoir le plaisir d'eux.
Bien sûr. Non, alors je ne sais pas si c'est systématique. Bon, en l'occurrence, là, on parle de cabaret travesti, donc on parle forcément de gens qui vont s'habiller en femme, qui vont faire donc des performances qu'on définira de drag queen, de trans, de trav, enfin, comme bon nous semble. Toujours est-il que moi, comment j'y suis venu, pour toujours reprendre mon cas personnel, puisque je ne peux pas parler à la place des autres, ça a été un peu l'accumulation de plusieurs choses dans ma vie. C'est des rencontres, c'est aussi une question un peu culturelle, quelque part. pardon. C'est vrai que d'un côté, il y a mes influences musicales. Je me tourne beaucoup vers l'électropop espagnol, la movida actuelle, qui est quand même beaucoup plus soft que celle qu'a connue l'Espagne à la fin des années 70. Ceci dit, il existe, du coup, il y a, comment dire, un héritage dans la culture pop espagnole et la culture qu'on pourra dire underground, des personnages drag, des personnages travestis. C'est quelque chose qui est encore extrêmement présent, qui est très très divertissant, auquel j'accroche beaucoup parce qu'il se trouve qu'il y a parmi ces artistes des artistes qui font des choses que j'aime énormément. On peut citer La Prohibida, dont on a entendu un titre tout à l'heure en début d'émission. On peut citer également Alaska, qui est une énorme star là-bas, qui est certes une femme, mais qui a quelque chose, selon moi, de fort lié aux questions de genre, si on regarde un peu son parcours, si on regarde un peu le personnage qu'elle est. Donc voilà, il y a tout d'abord cette part d'inspiration, ces personnes qui me motivent, vers lesquelles j'ai envie de tendre dans ma création, sans forcément s'intéresser là d'abord à leur personnage et à la question de genre. Ensuite, il y a les circonstances des rencontres. Il se trouve que je me suis fait des amis ces dernières années qui font des rôles de travestis, qui jouent dans des reproductions de scènes de films, qui font des tas de choses habillées en femmes. Ou alors qu'ils font de façon peut-être plus sérieuse aussi dans les spectacles comédie musicale comme Hedwig que tu as évoqué tout à l'heure et que tu as annoncé. Ça m'a ouvert un peu le regard sur toutes ces choses parce que j'avais beau me considérer comme quelqu'un de très ouvert, je me suis rendu compte que j'avais encore des petites choses qui pouvaient me déranger, avec lesquelles j'étais pas très à l'aise, et c'est vrai que du coup me retrouver face à ce type de performance, j'ai fini par le prendre comme quelque chose de sympathique, de plus dérangeant. Je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui sont gênés de voir un homme se travestir ou se déguiser légèrement en femme. C'est vrai que cette accumulation donc de circonstances font que peu à peu j'en suis venu à préciser mon projet musical, si on peut dire, en tout cas ma démarche artistique, et j'ai eu la volonté de me créer un personnage pour présenter mes titres, et un personnage qui serait, pour simplifier, un personnage travesti qui serait un peu à cheval entre les deux, un peu dans la maladresse entre le genre masculin et le genre féminin.
Oui, une très belle maladresse. Mais si ton personnage n'était pas travesti, qu'est-ce que ça lui retirerait ou qu'est-ce que ça lui rajoute d'être travesti?
C'est une bonne question. Le personnage, encore très léger, n'est pas très charismatique. Moi, je me suis cherché surtout une identité un peu plus charismatique que moi au quotidien, parce que comme pas mal d'artistes, je pense que je suis assez, quand même relativement réservé. Peut-être que je m'aime pas tout à fait comme je suis. Tout simplement, je suis pas très, très à l'aise vis-à-vis de moi-même. Je sais pas trop, là, on va pas virer non plus dans l'analyse. Mais la première chose qui m'est venue, finalement, quand est venu le moment où je me suis retrouvé face à moi-même et que je me suis retrouvé à devoir monter sur scène, où j'en ai eu l'envie et où on me l'a proposé, je savais que je pouvais pas me présenter comme Baptiste au quotidien. Il fallait que je me présente comme Baptiste, un personnage. Et du fait justement donc de toutes ces rencontres et des artistes qui m'inspirent, j'ai eu envie de partir dans ce côté féminin, sachant que j'avais envie d'aborder ça. Du point de vue d'une féminité assez spéciale, une féminité inspirée de la Movida, une féminité très, très colorée, très sucrée, une vision en fait, pas vraiment de la femme, mais d'une idée assez extravagante de ce que peut être, de ce que pourrait être la femme en général.
Oui, alors tu es quelqu'un qui se lie très facilement avec les transgenres. On a vraiment de bons contacts pour ça. Mais je ne sais pas quelle différence tu perçois entre quelqu'un qui a un besoin de s'habiller en femme et de féminité et quelqu'un qui le fait juste pour la performance artistique. Est-ce que tu ne perçois pas non plus que de temps en temps, ça peut être violent, notamment pour les MTF, qui nous renvoient souvent ça, quoi, l'étrave.
Mmh. Écoute, c'est vrai que c'est pas une question à laquelle j'ai pensé parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont fait part de cette douleur, en tout cas de leur réaction face à ce type.
Colère,
c'est plus d'accord. Une colère que d'accord. Une douleur. C'est vrai que là, pour le coup, ma démarche est entre guillemets purement égoïste, puisque je n'avais pas envisagé comment on pourrait percevoir ce public très spécifique, ce type de performance. C'est une question à laquelle il faudrait que je repense. Je comprends pourquoi ça peut mettre en colère, ça peut faire mal. C'est parce que il y a toujours un risque qu'on assimile une chose à l'autre, alors que ce sont deux choses bien distinctes. Et là, on est à la limite dans l'ordre du futile quand il s'agit de la performance artistique, si je veux être un peu radical. En tout cas, de la légèreté, pas forcément de la futilité, parce que l'art n'est pas forcément futile, au contraire. En effet, si on parle de trans MTF, on est dans un contexte tout à fait autre. Et là, pour le coup, qui est de l'ordre de l'expression de genre, si on prend l'intitulé du débat, et de l'intime et du naturel. Donc, je comprends en effet que l'assimilation de l'un à l'autre peut être douloureuse et mettre en colère, tout comme c'est aussi difficile pour un PD, tout ce qui est le plus commun, si je peux dire, qui n'apprécie pas, comme ça a pu être mon cas à une époque, de savoir qu'en étant homosexuel, il est associé à tout un folklore gay, y compris un folklore trans ou travesti, pas trans, mais drag queen et travesti.
Oui, trans aussi, mais à mon avis, c'est pas un folklore. On existe bel et bien, voilà, les folles. Ouais, je te remercie, Baptiste. Voilà, il nous reste juste le temps de faire quelques annonces. Vous savez que peut-être qu'en ce moment, c'est le Festival des films gays et lesbiens de Paris qu'on apprécie beaucoup parce qu'ils ont fait depuis quelques années d'énormes efforts pour s'ouvrir aux problématiques, ou aux thématiques plutôt, je préfère ce mot-là, qui ne sont pas purement gays et purement lesbiennes. Donc on a fait une petite sélection de quelques films qui restent à voir, hein, puisque ça a déjà commencé cette semaine, et avec Laz, on va vous en présenter quelques-uns.
Donc demain, vendredi, à 22h30, il y a le porno réalisé par Émilie Jouvet qui s'appelle One Night Stand, pour une nuit, et qui est en fait le premier porno français avec des acteurs qui sont des femmes queer et des garçons trans, donc des FTM.
Voilà, pour les amateurs de porno, je ne sais pas moi si j'aurai le courage d'y aller.
Moi j'irai en tout cas.
Un peu, voilà. Samedi.
Samedi, il y a un film, je crois. Donc samedi à 18h15, il y a un film qui s'appelle Nine Emotions, qui raconte l'histoire en fait d'une jeune indienne de 13 ans qui découvre un jour que son oncle se travestit. Et en fait, ce parent en fait compte se rendre à une genre de manifestation, festival annuel en fait de travestis, donc qui se passe je ne sais plus où en Inde, qui est fait pour célébrer en fait, il y a un concours de beauté pour célébrer le seul mythe dans la mythologie hindoue qui parle et qui accepte l'homosexualité.
Ouais, là, moi, j'ai pas vu le film encore, mais vraiment, j'ai très, très envie d'aller le voir. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard qui soit pas occidental et qui parle du travestissement, puisque en général, quand même, le regard qu'on a chez nous est très, très négatif par rapport au travestissement. Donc là, j'attends beaucoup. Je sais pas, on en reparlera peut-être.
Donc dimanche à 14h.
Oui, à 14h, donc il y a Boss de Lisette Barcelot, qui est un film sur l'intersexualité. Je le présente, à la suite de ce film-là, il y a le festival m'a demandé de faire un débat sur l'intersexualité. C'est un film qui a l'avantage de dire les choses, c'est à peu près la seule fiction qu'on ait sur la thématique. Il est assez violent pour nous, les intersexes. C'est vraiment une épreuve pour nous de le regarder, mais je pense qu'il a l'intérêt majeur de mettre les mots sur les mots. Hein. Voilà.
Et lundi, à 22h15...
À ne rater sous aucun prétexte.
Le documentaire The Nomi Song.
Ouais, alors sur Klaus Nomi, donc c'est un documentaire, il y a des images inédites sur ses premières périodes. Et puis,
qui c'était peut-être ?
Klaus Nomi, ben oui, bon, pour nous, ça paraît évident. Klaus Nomi était haute contre. Il avait des techniques de chant classiques. Il a mis ça à la sauce rock. C'était un personnage déjanté, travesti. Et c'est le premier mort du sida connu, officiel. Enfin, pour les anciennes comme moi, on s'en rappelle. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'époque, on parlait peu de la problématique du genre dans les médias, alors qu'il a vendu des millions de disques et que c'était vraiment, au moins en France, il était très très connu. On l'a oublié par la suite.
Et c'est tout.
Et c'est tout, mais enfin, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est ce que j'ai relevé.
Voilà, donc je rappelle quand même, donc le 3 décembre, à la Petite Vertu, à 14h, c'est un dimanche, il y a une rencontre trans. Essentiellement, c'est à la demande des jeunes FTM, donc une bande de joyeux de riz. On va passer Shrek 2, parce qu'on est jeune, parce qu'on adore Shrek 2. Mais c'est ouvert à tout le monde. On a déjà eu une première rencontre informelle hier soir où on était une vingtaine de trans et c'était super sympa. Donc du coup, ben, dans la foulée, on fait ça le dimanche 3 décembre. Le 30, n'oubliez pas la marche pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Le 1er décembre, il y a Hedwig and the Grinch. Et puis, je tourne les pages de mon agenda. Le 11 décembre, à la mairie du 9e, on a les tables rondes donc, sur trans et VIH et sur quelle prévention et sur FTM et intersex et VIH.
Et je me permets de compléter ton agenda en rappelant qu'il y a chaque mois à la Petite Vertu dans le 3e arrondissement la soirée Vice et Vertu que j'organise. On est plusieurs, il y a un peu de tout, des shows musicaux, de la performance drag, trav, de la vidéo, des tas de choses. Donc le programme de la prochaine est en cours d'élaboration. Elle devrait avoir lieu le vendredi 15 décembre à 21h. Pour toute information, consultez régulièrement le site www.vicevertu.fr ou le MySpace de la soirée myspace.com/vicevertu. Voilà.
Voilà, merci et bonne soirée. Merci au mois
beaucoup.
Prochain.
Au revoir.
Une dernière petite précision pour ceux qui veulent aller voir Shrek 2. La Petite Vertu, c'est 3 rue des Vertus dans le 3e arrondissement, métro Arts et Métiers. C'est rue des Vertus, en tout cas, c'est une toute petite rue, vous devriez la trouver assez facilement. Et enfin, la prochaine émission de Body Freak, c'est exceptionnellement, non pas dans un mois, mais dans 15 jours, le 5e jeudi de ce mois-ci, le 30 novembre, à la même heure. Bonne soirée.